VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes, Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord le journal. Campagne électorale américaine dans les caucus de la Iowa hier, première étape des primaires présidentielles aux États-Unis. Victoire du sénateur du Texas Ted Cruz devant le milliardaire Donald Trump, deuxième dans le camp républicain. Côté démocrate, la lutte est extrêmement serrée entre l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton et son principal rival Bernie Sanders, sénateur du Vermont Nicolas Pineau.
Oui, chez les démocrates, le coude à coude se confirme puisqu'Hillary Clinton est certes arrivée en tête avec 49,8% des suffrages contre 49,6% pour son adversaire Bernie Sanders. Oui, mais voilà, en termes de délégués, ces grands électeurs qui voteront lors de la convention du parti cet été, Madame Clinton obtient 24 délégués contre 21 délégués pour Monsieur Sanders. Le prochain vote, dans l'état du New Hampshire, s'annonce donc crucial pour voir si Hillary Clinton prend le devant ou si Bernie Sanders confirme sa popularité. A noter que le troisième candidat à l'investiture démocrate, Martin O'Malley, a jeté l'éponge hier soir. Chez les Républicains, à présent, le conservateur Ted Cruz l'a emporté avec 28% des suffrages contre 24% pour le milliardaire Donald Trump. Ce dernier, avec tout son argent et sa verve de numéro 1 des sondages, peut être déçu car derrière lui, le sénateur de Floride, Marco Rubio, arrive troisième avec 23% des suffrages. En termes de délégués, Cruz obtient 8 délégués, Trump et Rubio 7 chacun. Là aussi, la course est donc très serrée. Rendez-vous mardi prochain dans le New Hampshire pour voir si tout s'éclaircit chez les Républicains. À noter que Mike Huckabee a lui aussi décidé de quitter la course. Il avait pourtant remporté la primaire de l'Iowa en 2008.
Afrique maintenant, au Congo-Brazzaville, le gouvernement a publié aujourd'hui le calendrier électoral en vue de la présidentielle du 20 mars prochain. Selon l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Mboulou, le dépôt des candidatures commence le 5 février et la campagne électorale débutera le 4 mars. Plus de détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
C'est vendredi prochain que les bureaux de la Cour constitutionnelle vont commencer à recevoir les candidatures. Le rituel va durer jusqu'au 20 février et chaque candidat devrait payer une caution de 25 millions de francs CFA pour prétendre briguer la magistrature suprême. Présentement, 5 candidats se sont déjà déclarés. L'indépendant Joseph Kinyumbi Kiambungu, André Okombi-Salissa de la CADD, Pascal Tsassima-Diala de l'UPADS, Angios Ngangia Engambe du PAR, et Mboussingouari, un autre candidat indépendant. Investi en fin janvier par son parti, le PCT, le président Denis Sassou Nguesso ne s'est toujours pas prononcé. La campagne électorale, elle, s'ouvrira le 4 mars prochain et jusqu'au 18 mars, les candidats retenus s'emploieront à convaincre le plus d'électeurs possible. Sur le terrain, on note actuellement une affluence significative des populations pour se faire enrôler sur les listes électorales. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et du chef de milice Charles Blé Goudé pour crime contre l'humanité à la Cour pénale internationale de La Haye. La défense de Charles Blé Goudé, surnommé le général de la rue, a affirmé aujourd'hui que l'ex-ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo n'était pas l'instigateur des graves violences dont il est accusé devant la CPI. Charles Blé Goudé n'est pas un général de la rue, c'est un homme qui a essayé d'arrêter la violence, a martelé son avocat néerlandais Geert-Jan Knoops dans sa déclaration. La défense a diffusé une vidéo montrant Blé Goudé en compagnie d'un activiste américain, ancien proche du leader américain pour les droits civiques Martin Luther King, dans laquelle l'ex-ministre de la Jeunesse déclare à son interlocuteur « Je vous invite à prier pour toutes les communautés ». Selon Maître Knoops, son client a essayé d'unifier son peuple et d'appeler au dialogue. Toujours concernant la Cour pénale internationale, la CPI rendra le 21 mars son jugement dans le procès de l'ex-vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, accusé de crimes commis en 2002 et 2003 par sa milice en Centrafrique. Il s'agira du premier jugement contre un ancien vice-président et du quatrième en tout, rendu par la CPI depuis son entrée en fonction en 2003. Si l'accusé est reconnu coupable, la peine sera déterminée à un stade ultérieur. Un appel est également possible dans ce procès manqué par des accusations de subornation de témoins. Rappelons que quelques 1500 miliciens de Jean-Pierre Bemba s'étaient rendus en RCA en octobre 2002 pour soutenir le président Ange-Félix Patassé, victime d'une tentative de coup d'État du général François Bozizé. Selon l'accusation, les miliciens de Jean-Pierre Bemba ont alors violé, tué et pillé la population civile.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le sud du Nigeria, des militants indépendantistes du Biafra ont pris le contrôle d'un bateau commercial au large de Port Harcourt. Ils menacent de faire exploser le navire avec son équipage étranger s'ils n'obtiennent pas la libération de leur leader Nnamdi Kanu. Ce dernier est en prison depuis le mois d'octobre. La justice nigériane a ordonné sa libération, mais la police le garde toujours en détention. Pour des éclaircissements sur Nnamdi Kanu et ses partisans, Idriss Fall a joint le professeur Acho Akakuru de l'université de Port-Harcourt dans le sud du Nigeria.
Il est leader d'un groupe qui s'appelle Independent People of Biafra, c'est-à-dire un mouvement indépendantiste qui réclame, n'est-ce pas, l'état de Biafra.
La justice avait ordonné sa libération et il est arrêté depuis le mois d'octobre et il n'a pas été libéré.
Oui. C'est là, je crois, que ce qui gêne les gens, non seulement les indépendantistes, mais les autres Nigériens se demandent pourquoi le gouvernement refuse, n'est-ce pas, d'accéder à la décision de la justice. Car ça doit faire partie d'une démocratie que de respecter les verdicts de la justice, sinon on s'achemine vers l'anarchie.
Indépendantiste du Biafra, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est sérieux?
Je ne crois pas qu'il y ait tellement d'ibos, de gens ibos qui réclament cette indépendance, mais on doit quand même accepter que les choses sont difficiles au Nigeria. Les hommes politiques s'accaparent de tout ce qui est richesse du pays et le changement qu'on a promis n'est pas, n'est-ce pas, si rapide, on ne voit pas clairement ce qui se passe. Et les gens se disent pourquoi. Les gens n'ont pas de travail. Il y a tellement d'inégalités dans notre pays. Je crois que ce mouvement indépendantiste n'est qu'un aile de ce qui se passe. Il faut quand même redescendre aux vraies causes de ce problème.
Le professeur Acho Akakuru de l'université de Port-Harcourt dans le sud du Nigeria. La lutte contre le terrorisme maintenant, 23 pays se sont réunis aujourd'hui à Rome en Italie pour faire le point de la campagne internationale contre le groupe État islamique. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, a démenti toute velléité de la France d'intervenir militairement en Libye. Mais l'ouverture de nouveaux fronts contre l'État islamique dans ce pays est sérieusement envisagée par les États-Unis et d'autres pays participant à la réunion. Pour leur part, les pays africains s'inquiètent de l'avancée de l'État islamique dans le sud libyen, ce qui est en particulier dangereux pour le Niger et le Tchad, estime le chef de la mission de l'ONU en Libye, Martin Kobler. Toujours concernant la lutte contre l'État islamique, le Pentagone compte augmenter de 50% son budget pour combattre le groupe militant d'Aboubakar al-Baghdadi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à Washington le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter. Les sommes affectées à la lutte contre l'État islamique atteindront 7,5 milliards de dollars en 2017. Conflit en Syrie maintenant, l'opposition syrienne a annoncé qu'elle ne participera pas aux pourparlers qui ont commencé hier à Genève et sont censés être une étape décisive vers un règlement politique du conflit. John Lydon.
L'opposition syrienne a décidé mardi de boycotter ses pourparlers avec l'émissaire de l'ONU pour protester contre l'aggravation de la situation en Syrie, a indiqué un porte-parole. Il n'y a pas de rencontre avec l'émissaire Staffan de Mistura, a déclaré à la presse Farah Adazi. Nous avons présenté nos exigences. Il n'y a aucune raison de répéter la même chose avec M. de Mistura, a-t-elle ajouté. Une porte-parole des Nations Unies a confirmé que la réunion prévue mardi en fin d'après-midi avait effectivement été annulée. Les représentants de groupes armés présents à Genève le sont à titre personnel, avait déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Abu Dhabi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue émirati. Une chose est sûre, c'est que ces négociations devraient être globales, conformément à la résolution 2254 de l'ONU et inclure des représentants de tout le peuple syrien, comme le prévoyait la déclaration de Genève de 2012, a estimé le ministre russe.
Et pour terminer, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé aujourd'hui à Genève la création d'une unité de réponse globale au virus Zika, présent pour l'instant en Amérique du Sud, mais qui pourrait s'étendre rapidement à l'Afrique et à l'Asie. Ce virus est soupçonné de causer des malformations congénitale dont souffrent les enfants nés avec une petite tête. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.